apôtres. Et j'aurais tendance à dire qu'il ne leur a pas lavé les pieds parce que c'était leurs apôtres, parce qu'il les connaissait. Je pense qu'il aurait fait exactement la même chose avec un étranger, avec un malade, avec quelqu'un qui n'était pas de sa couleur de peau, avec quelqu'un qui n'avait pas la même origine que lui. Si ça avait peut-être été une femme, je ne sais pas, mais dans le temps de Jésus, les femmes étaient, voilà, c'était particulier. Mais je pense que Jésus n'a pas fait de ségrégation. Il a pris ses apôtres parce qu'il a voulu leur donner une leçon. Et la leçon, elle est là, elle est toujours là et elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Et donc, dans la continuité de ça, ces apôtres ont quand même cette affinité avec Jésus qui est super importante. Et c'est pour ça que mon prêche aujourd'hui, je l'ai appelé « Enclin à la moisson ». Et là, tout le monde dit « Oh là là !»« Enclin à la moisson ». Alors, c'est marrant parce que j'ai pris un dictionnaire ce matin et puis je ne savais plus si « enclin », c'était en un mot ou deux mots. Voilà, bon, il y a des moments, on a des trous de mémoire comme ça et j'en ai assez régulièrement. Et enclin, c'est en un mot. Et dans le dictionnaire, enclin, c'est marqué « elle est encline à la paresse ». Moi, je dis « elle est sympa, la définition du dictionnaire ». Parce qu'au lieu de dire quelque chose de positif, d'encourageant, elle est encline à la paresse. Bon, c'est sympa. Bon. Alors, tandis que moi, j'ai envie de prendre l'aspect positif. Alors, il y en a un mot. Hein. On dirait qu'il y a un espace entre nous, mais il n'y en a qu'un. Ouais, c'est en un seul mot. Il est en un mot. Je l'ai corrigé, mais bon, bref. Enclin à la moisson, là c'est vraiment un encouragement. Je voudrais vous donner un encouragement ce matin parce que je me rends compte que la moisson a une telle importance. Souvent dans la parole, il y a des images, qui sont données avec la culture, avec un aspect de semer, de moissonner, d'arroser, etc. Et il y a toujours cette moisson qui est là et qui revient. Et à plusieurs reprises dans la parole, on voit voilà, la moisson est grande ou voilà, il y a peu d'ouvriers, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment important, la moisson. La moisson, elle est là parce que c'est le rôle de chacun. C'est vraiment la mission qu'on a dans la parole, c'est d'aller dans les champs de Dieu et d'aller moissonner. Alors j'ai trouvé cette image, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que dans cette parole, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer. La première, c'est tout d'abord que, effectivement, c'est un fait. Les ouvriers sont peu nombreux. Et pourtant, j'ai trouvé des chiffres qui, pour moi, sont assez intéressants. J'ai trouvé c'est une vidéo du CNRS. Une vidéo du CNRS qui nous dit qu'aujourd'hui, les protestants évangéliques, parce qu'ils ont fait un recensement des protestants évangéliques dans le monde. D'accord ? Donc ils ont pris essentiellement les protestants évangéliques. Il faut savoir qu'on est 600 millions d'évangéliques dans le monde. 600 millions. Quand Jésus va revenir, on va être nombreux à remonter là-haut. Et moi, je suis content de ça. Mais d'un autre côté, je me dis que ce n'est pas encore assez nombreux, parce que 600 millions sur plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards d'habitants, c'est quand même relativement peu. Un chrétien sur quatre dans le monde aujourd'hui est protestant évangélique. Un chrétien sur quatre. Environ 200 millions de chrétiens évangéliques dans les pays asiatiques. Il y en a 170 millions en Afrique. Et donc, en Afrique, il faut savoir qu'il y a un missionnaire pour 11 000 personnes. Un missionnaire pour 11 000 personnes. Il y a 122 millions dans tout ce qui est sud, dans l'hémisphère sud-américain, dans les Caraïbes, 122 millions de chrétiens, 97 millions, là j'ai pas mis le chiffre, je sais plus où c'est, bon bref, peu importe. Si, c'est en Amérique, donc Amérique du Nord, donc Canada, Amérique, 23 millions en Europe, 7 millions en Océanie. Et quand ici dans l'Europe, parce que j'ai pas repris tous les pays, mais il n'y a pas la France. D'accord. Donc on a vraiment du taf. Là, les chiffres pour les 23 000 en Europe, c'est surtout en Russie, les pays de l'Est. Et c'est bien. Il y a l'Allemagne, ça vient jusqu'en Allemagne. Et donc on a du travail. Et non pas que je vais prendre des chiffres parce que ça fait joli de donner des chiffres dans un prêche, mais tout simplement parce que je pense qu'on a encore du boulot. On a encore du boulot. Et c'est bien. Je trouve ça bien. Et donc là, je voudrais prendre la parabole du semeur, Cassandre, si tu veux bien. Non, c'est pas la parabole du semeur, c'est la parabole des ouvriers. Voilà. Juste pour vous la résumer un petit peu avant, il faut savoir qu'il y a donc un maître qui a des terres, qui a besoin de moissonner ses cultures. Et il a besoin d'ouvriers. Et donc, voilà le contexte. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place. Donc il faut savoir que là, dans tout ce passage-là, il sort toutes les 3 heures. 9, 12, 15, 18. 17, pardon. 17. Donc il sortit vers 9 heures, ensuite il sort à midi. Il leur dit, allez, vous aussi, allez travailler à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Et ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, lui dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent, à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous. Nous avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Et il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent ?» Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Il y a beaucoup de leçons dans cette parabole. Beaucoup de leçons. Parce que tout d'abord, on voit un maître qui est quand même relativement riche. Parce qu'il a les moyens d'employer autant d'ouvriers qu'il le souhaite. Il va dans la rue et il prend autant d'ouvriers qu'il le souhaite. D'accord ? Donc il n'y a vraiment pas de quantité. On n'est pas là pour dire, ben voilà, le maître, il a besoin d'autant de personnes pour tel ou tel service. Il prend en fonction de ce qu'il trouve dans la rue. Et les ouvriers, quant à eux, dès le matin, sont embauchés. Donc il y a un salaire qui est fixé dès le départ. Donc vous voyez qu'après que les ouvriers qui sont à midi et 15 heures, ils ne parlent pas de salaire, le maître. Ils parlent de salaire avec les derniers 17 heures. D'accord ? Et dans sa tête, pour lui, c'était logique. Le travail est fait, moi, mon travail, à partir du moment où mon travail est fait, peu importe combien je leur donne, mais le travail est fait. Voilà la mentalité du maître. C'est que pour lui, ce n'est pas la quantité d'ouvriers qui est importante, et pourtant il en a besoin de beaucoup. Donc malgré tout, il a besoin quand même que ses ouvriers soient là et qu'ils puissent travailler. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que le travail soit fait. Peu importe le prix. Peu importe le prix. Et donc, dans cette parabole, on voit... Donc il est temps de se mettre au travail. Il est temps de se mettre au travail. Les ouvriers qui sont là, on peut aussi les voir dans plusieurs domaines. Les premiers qui sont pris parce que ils se sont levés tôt, ils ont pris le courage de se lever tôt. Alors, attention, je ne vais pas vous faire de leçons sur le fait d'arriver en retard. Mais voilà. Hein. Mais ils se sont levés tôt pour aller au travail. Est-ce que, et ça c'est une des leçons que j'ai envie de tirer de ça, est-ce que l'on est prêt à payer le prix ? Sommes-nous prêts ce matin à payer le prix ? Et qu'est-ce que l'on est prêt aujourd'hui à faire pour Jésus ? Qu'est-ce que l'on est réellement prêt, j'ai bien dit réellement prêt à faire pour Jésus ? Est-ce qu'on est capable, des fois, de se lever tôt pour partir à un endroit bien précis parce qu'il a besoin d'un travail qui soit fait là-bas ? Est-ce qu'on est capable de se lever la nuit parce que le Saint-Esprit nous appelle à prier pour telle ou telle personne ? Est-ce que l'on est prêt à parler ou à prier pour quelqu'un dans la rue ? Est-ce qu'on est prêt à faire ce que le Saint-Esprit nous met dans le cœur de faire à un moment donné ? La question est importante. Parce que là, les ouvriers, il y a plusieurs catégories d'ouvriers. Là, on n'a pas de catégorie, on ne donne pas de personnes, on ne dit pas si ce sont des hommes ou des femmes, on nous parle d'ouvriers. Il n'y a pas là non plus de ségrégation, il n'y a pas de classe socio-professionnelle qui intervienne. On a besoin d'ouvriers, point. Par contre, moi j'aurais tendance à dire que pourquoi est-ce qu'il y a des ouvriers qui, à 17h, ne sont pas là dans cette parabole ? Peut-être que ce sont des gens de mauvaise vie ou des mauvais travailleurs qui sont connus dans la région et que les autres maîtres n'ont pas voulu prendre pour leur travail. Attention, c'est moi qui extrapole. Mais je pense que le maître n'a pas fait là non plus de distinction entre les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure. Parce qu'une journée de travail, ça se termine à 18h. Il prend des ouvriers, il travaille une heure, c'est peinard quand même. Et ces ouvriers étaient là quand même. Et il les a quand même embauchés. Il ne les a pas jugés. Il aurait très bien pu se dire, mais pourquoi ? Il leur dit d'ailleurs, mais pourquoi vous ne travaillez pas ? Il leur dit simplement, les ouvriers répondent simplement, mais parce qu'il n'y a personne qui nous a embauchés. Et ils disent pas, c'est parce qu'on a deux mains gauches, etc. Tu comprends, j'ai pas envie de travailler. Et puis, non. Ils n'ont pas trouvé d'excuses. Ils ont simplement dit, personne d'autre ne nous a embauchés. Et le maître, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, écoutez, moi je constate aussi, vous avez deux mains gauches, je ne vais pas vous embaucher. Non. Il leur a dit, allez travailler dans mes champs. Ça veut dire que tout le monde peut aller travailler dans les champs, tout le monde. Tout le monde doit aller travailler dans les champs, parce que le maître, quand il se promène dans la rue et qu'il voit Alex qui est là avec les bras croisés, il dit « Mais pourquoi tu as les bras croisés, Alex ? Va dans mes champs, va travailler. » Bon, je vous rassure, il travaille. Il bosse bien, à la fois dans son travail mais à l'église. C'est un bon ouvrier. Je suis sûr que Jésus, quand il va le voir, il dit « Bon Alex ! Oh, bon Alex !» La parabole du maître, alors, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ou des ouvriers, la parabole des ouvriers, mais elle est importante parce qu'elle nous remet à notre place. Elle nous remet à notre place parce que le maître, c'est qu'une image. Ce n'est pas une histoire vraie, hein, c'est une parabole. Jésus l'a interprétée, etc. Les apôtres étaient là, ils avaient besoin tout le temps de dire à Jésus, voilà, bon, comment tu fais pour donner des images comme ça, etc. Mais elle nous remet en place, elle nous remet en place. Pourquoi j'ai vraiment dans le cœur que l'on puisse, et c'est le cas, et je vois vraiment qu'il y a un mouvement qui se lève aujourd'hui dans l'Église, et je trouve ça bien. Je trouve ça tellement bien. De voir que, encore là dernièrement, on a ce fameux mouvement des jeunes, qui est donc l'opération Luc 10. Ben moi, je les encourage. Et quand on en a parlé dernièrement, avec Chanel, toujours la même, eh bien, elle nous dit, mais ça ne nous empêche pas d'avoir les miquettes. On a les pétoches, mais oui. On a les pétoches, mais on y va quand même. Et c'est bien d'aller. C'est bien parce que c'est là où Dieu va nous former. Parce qu'il y a besoin de formation. Il y a besoin de cette formation. Et c'est pour ça que là, si on prend la dia suivante, ce fameux chrétien, il y en a beaucoup des chrétiens comme ça. Il y en a beaucoup moins que ceux qui veulent vraiment évangéliser. Et moi, je trouve ça bien. Mais il y a toujours ceux qui disent, ah non, évangéliser, moi. Ah, il ne dit pas oui ou non. Mais il dit, moi. Mais qui je suis pour aller évangéliser? Et c'est vrai que j'ai déjà eu des discussions avec des personnes qui me disent, mais ok, moi j'aimerais bien parler de ma foi, j'ai cet engouement pour Dieu, j'ai ce feu pour Dieu, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas comment m'y prendre. Et c'est ça. Ah non, évangéliser, moi, je ne sais pas comment m'y prendre. Ben, ça se prend naturellement. J'ai tendance à dire que moi, lorsque je vis ma foi, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas une adhésion à un club de foot où je vais jouer au foot, parce que j'ai mon adhésion. Je suis footballeur sur le terrain et chez moi, est-ce que je suis encore un footballeur ? Non, c'est différent. Ma vie de chrétien, c'est au fond de moi. C'est vraiment quelque chose qui sort de moi. Et la parole dit que tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et le cœur de chacun doit être réellement avec cette impulsion, cette mentalité du royaume, comme on dit. La mentalité du royaume. Moi, j'ai envie de ça. La mentalité du royaume. Et donc la formation, elle est là, elle existe. En ce moment, je suis une petite formation. C'est pas une formation en tant que telle, mais c'est une valorisation des acquis d'expérience. C'est pas une VAE, mais bon, presque. Et donc, il y a celle qui dirige ça, c'est une psychologue du travail. Et je l'ai encore vue jeudi. Et dès la première fois on s'est vu, j'ai parlé de ma foi. Je me suis dit, tant pis, c'est vrai que des fois, les psychologues, ça va vite. Hein. Ouais, mais alors vous êtes chrétien parce que ceci, cela, machin. Oui, mais c'est des gens très cartésiens. Souvent, tous ceux qui sont... Je ne fais pas non plus de ségrégation, je ne fais pas de généralité. Mais souvent, les médecins sont des gens qui réfléchissent beaucoup d'ici. Et cette psychologue, elle a soif. Et donc, la première fois où je suis arrivé dans cette formation, on était une dizaine, on a dû se présenter, venir au tableau, se présenter devant tout le monde. Je me suis présenté et j'ai dit, voilà, moi, par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai envie aussi, et sachez que je suis chrétien, que mon travail doit être assorti, entre guillemets, à ma façon de vivre ma foi. Parce que j'ai vécu des expériences difficiles dans tout ce qui est commercial. Et donc, j'ai parlé tout de suite de ça. Et je continue par rapport à ça. Je l'ai encore vu jeudi pour la, je sais pas combien de fois, mais pareil, je lui ai dit, écoutez, moi, voilà, ma foi me fait que, tac, 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 et à chaque fois, je lui balance des choses. Et elle m'écoute, elle a besoin, et elle me pose des questions. Elle me dit, voilà, nous, moi, j'ai besoin de miracles. Mais je dis, mais il n'y a pas de problème, je suis là si vous avez besoin. Et puis après, elle a changé de sujet. Elle dit, non, peut-être pas ici, mais j'ai besoin de miracles. Elle me l'a dit. Et puis, il y a quelqu'un dans la formation, c'était la semaine dernière, et c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer de quelqu'un qui a une attente. Cet homme, il est pessimiste et négatif. Et tout ce qu'il dit est tourné dans l'aspect négatif. Il dit, ouais, mais aujourd'hui, les employeurs, c'est ceci, cela. Et vraiment, on sent que tout ce qu'il a dans son cœur, c'est de la rancune. C'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'il aura du mal à retrouver du travail à cause de ça. Et à un moment, il dit comme ça à la psychologue, il dit, ouais, de toute façon, vous savez bien, les miracles, ça n'existe plus. Je dis, si. Je l'ai regardé, je lui ai dit, si, les miracles, ça existe. Bien sûr. Ah bon? Il me dit, ça existe, les miracles? Je dis, oui. Moi, j'en vois régulièrement. Il m'a regardé avec des grands yeux. Et puis voilà, on a continué la discussion. Et puis à un moment, on continue dans la formation. Et puis il dit, de toute façon, les miracles... Ah si, c'est vrai, c'est des miracles, ça existe. Il m'a regardé, il dit, ah si, les miracles, ça existe. J'avais semé. J'ai semé. C'est peut-être pas moi qui vais arroser, mais j'ai semé. J'ai mis quelque chose dans son cœur qui est là. J'ai posé la graine. J'ai posé la graine. J'ai pris mon petit doigt, j'ai fait un trou dans la terre, j'ai posé ma graine et j'ai remis la terre dessus. J'ai arrosé un petit peu, mais pour que la graine elle puisse germer, il faudra que quelqu'un d'autre sur sa route puisse venir et arroser ce que j'ai mis. Donc Seigneur, maintenant tu bénis Guillaume. Et ça aussi c'est un point qui est important. Et je vais un petit peu aller dans le désordre, Cassandre. Ah ben non, c'est très bien, voilà, comme quoi je suis vraiment inspiré. Si vous en doutiez, voilà. 1 Corinthiens 3, les versets 7 à 9. Là, je vais bien remettre les choses en place. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui me dit, et j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir et me disent, de toute façon, moi j'ai planté, c'est Dieu qui arrose. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique ce que tu dis. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Ne nous trompons pas. On se doit de planter, on se doit d'arroser, et c'est Dieu qui fait croître. Pourquoi ? Parce que Dieu a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour avoir ce travail-là, qui est fait de façon qualitative, pour que l'on puisse vraiment apporter cette joie que l'on a de pouvoir suivre Jésus, de pouvoir servir Jésus, et c'est un plaisir de suivre Jésus. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et pas aussi pour Dieu. Mais là, il est bien mis avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Waouh, 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 waouh. C'est bien ça, non ? Et on se doit de planter, on se doit d'arroser. Et merci Seigneur, parce que moi j'ai une totale confiance en toi, parce que c'est toi qui vas faire croître. C'est toi qui vas faire croître. La semaine dernière, on a reçu quelqu'un à la maison, et puis il va dans mon jardin, et puis il me dit, oh là là, vous avez un beau gazon. Mais je dis, oui, mais regardez, mon gazon, il n'est pas très beau. Moi, je ne le trouve pas beau, mon gazon. Il est beau, et il n'est pas si beau que je le voudrais, d'accord ? Et je lui dis, regardez, mon gazon, regardez celui de mon voisin. J'ai dit, il est plus vert que le mien, pourquoi ? Pourquoi il est plus vert que le mien ? Et il me dit, ah ouais, mais attention, parce que lui, il a mis de l'azote et tout. Alors, j'y connais que dalle. Hein. Azote, c'est un gros mot pour moi, d'accord ? Il me dit, il a mis de l'azote, mais vous verrez, dans quelques années, il sera comme le vôtre et tout. Je dis non. Non, il n'a pas mis d'azote. Parce que je le connais, je sais comment il a fait. Parce que je parle bien avec mon voisin. J'ai déjà planté chez mon voisin aussi, c'est vrai. J'arrose de temps en temps, c'est rigolo. Mais... Il a simplement amené de la bonne terre. Avant de construire sa maison, il a fait venir de la bonne terre. Eh bien, moi, je prie pour que, Seigneur, tu puisses vraiment nous amener dans des bonnes terres. Pour que l'on puisse non seulement planter, arroser, mais qu'on puisse avoir de la bonne terre. Parce qu'aujourd'hui, le monde fait en sorte que nous soyons de la mauvaise terre. Et ça, j'en suis persuadé, quand on voit les infos, quand on voit le pessimisme dans les infos, quand on voit plein de choses qui se disent, qui se font, eh bien, je suis désolé. Aujourd'hui, on voit notre pays comme une mauvaise terre. Et moi, j'en ai assez d'entendre des trucs en disant, ouais, de toute façon, la France, c'est un pays qui est difficile, même dans l'évangélisation, c'est difficile, etc. Non, il faut arrêter de lier notre pays. Il faut arrêter de lier notre terre. Il faut arrêter de dire des choses et de confesser des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'un cœur reste un cœur. Je vais la refaire. Un cœur reste un cœur. Et tout le monde, vous n'allez pas me dire que il y a des gens qui n'ont pas besoin de Dieu. Alors, ceux qui n'ont pas, ou qui vous disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, attendez la première épreuve là qui va arriver. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'épreuve. Il y a des gens, ils sont naturellement, je ne vais pas dire bénis, mais ils vivent bien. Et ils n'ont rien dans leur vie. Ils n'ont rien. Et puis un jour, crac ! Ce matin, Pascaline reçoit un SMS, je peux me permettre, Pascaline, de peut-être en parler. Et je entends que Pascaline dans la voiture qui dit « Oh non !» Je dis « Bon. » Et un médecin donc, avec qui elle travaille s'est donné la mort cette nuit. Et en fait, ce n'était pas mis comme ça dans le SMS. Il dit « Voilà, nous vous annonçons le triste décès de vous annoncer la mort d'un tel médecin. » Et Pascaline répond, elle dit « Mais waouh, quelle tristesse! Mais que s'est-il passé ?» Et on lui a répondu, il a choisi. Donc, il s'est suicidé. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Mais Pascaline, elle va plus loin que ça. Elle dit, je connaissais sa sœur à ce monsieur, qui elle aussi s'est donné la mort. Et que quand sa sœur s'est donné la mort, lui déjà parlait de se donner la mort. Il avait déjà quelque chose dans sa terre qui n'était pas bonne, qui n'était pas bon. Ouais. Il y avait quelque chose dans sa terre qui n'était pas bon. Voilà. Toute la phrase, c'est mieux. Et un jour, eh ben, ce qui a germé de sa terre a fleuri, et la fleur était une mauvaise fleur. Et aujourd'hui, eh bien voilà, c'est fini. Je ne veux pas être pessimiste, ou je veux pas vous mettre une pression, je ne veux pas vous dire non, je ne veux pas bougonner, ce n'est pas ça que je veux faire. Mais je veux simplement qu'on puisse être vraiment averti. On l'est déjà, mais continuez à sonner de la trompette. Parce que c'est David Wilkerson qui le disait ça. On va sonner de la trompette. Et il y a de la trompette qui sonne déjà. Parce que moi je pense, et je suis, je ne vais pas dire persuadé, mais je pense que Jésus revient très très bientôt. Maintenant c'est moi, attention, ce n'est pas une leçon, c'est moi, d'accord? Je vais vous lire quelque chose que j'ai reçu, je lis sa parole pour aujourd'hui, j'aime bien. Et ce matin, donc j'ai lu celui de ce matin qui est vraiment très parlant, c'est l'histoire de Billy Graham. Est-ce que tout le monde connaît Billy Graham? Billy Graham est un monsieur, je vais le lire, la chose la plus importante du monde. C'est le titre. Billy Graham est né à Charlotte, en Caroline du Nord. On connaît du monde en Caroline du Nord. Non, Sud ? Nord, Sud ? Bref. Nord. Donc c'est le pays où sont... Au sein d'une famille de presbytériens humbles et travailleurs, alors qu'il était adolescent, un groupe d'hommes d'affaires obtint de son père l'autorisation d'utiliser l'un de ses champs pour y tenir une réunion publique. Quelqu'un demanda à Billy « Qui sont ces gens qui font tant de bruit dans ton champ ?» Et ce dernier répondit « Une bande de fanatiques qui ont réussi à convaincre mon père de leur prêter un champ. » Ce même jour, l'un des hommes pria Dieu de susciter de cet endroit même un prédicateur capable d'aller porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Une seule personne qui a dit « Voilà, moi sur cette terre, sur cette bonne terre, je veux qu'il y ait une belle plante. » J'avais déjà fait mon prêche quand j'ai lu ça. Et ça m'a conforté quand je l'ai lu ce matin. Mon prêche était déjà fait. Billy n'aurait pu s'imaginer qu'il serait ce prédicateur. Plus tard, l'évangéliste Mordecai, voilà, à vos souhaits, arriva dans la région pour y tenir une série de réunions. Et Billy, bien que s'étant promis de ne pas mettre les pieds dans la salle prévue, finit par y aller et y donner sa vie au Seigneur. Quelques années plus tard, Billy fut pris à la gorge en lisant cette phrase de Paul « La chose la plus importante au monde est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Dans l'histoire de la chrétienté, aucun prédicateur n'a prêché devant davantage de personnes que Billy Graham. Il a annoncé l'évangile derrière le rideau de fer, en Chine, en Corée du Nord et sur chaque continent de notre planète. Pourtant, il a souvent affirmé « La première chose que je vais demander en arrivant au paradis est « Pourquoi m'avoir choisi, moi, un simple fils de fermier de la Caroline du Nord, pour prêcher à tant de personnes à travers la planète ? La vie de Billy Graham est une preuve que le plus important aux yeux de Dieu est d'être simplement disponible. Simplement disponible. Paul a écrit « Nous qui avons été touchés par la bonté de Dieu, nous avons été aussi appelés à annoncer à tout le monde les merveilleuses choses qu'il a accomplies afin qu'eux aussi viennent à croire. » Dieu vous a appelé, vous aussi, à annoncer la merveilleuse nouvelle de son amour, afin que ceux qui vous entourent en viennent à croire. Ne vous préoccupez pas de conclure l'affaire, ils viendront quand Dieu décidera de les appeler. Votre responsabilité est simplement de témoigner de la bonne nouvelle que vous avez découverte. Eh bien, moi, je trouve ça admirable. Je trouve ça admirable. Parce que je vois vraiment Dieu qui peut se servir de n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas parler ou que tu sais parler qu'il va se servir plus de toi ou moins de toi. Dieu, j'ai coutume de le dire, Dieu n'a pas de chouchou. Je vais le refaire parce que j'ai ma langue à fourcher. Dieu n'a pas de chouchou. Il n'aime pas plus Vincent que Christiane. Et pourtant, Christiane, il l'aime bien. Et il l'aime bien, bien. Mais il n'a pas de chouchou, il aime autant Vincent que Christiane. Donc ça veut dire que Vincent, il aime bien, bien. Et il aime bien, bien aussi Alex et Chanel. Bon, un peu moins Chanel, mais non, il aime autant Chanel. Je m'acharne sur toi, j'aime bien. Tout simplement parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin vraiment qu'on puisse aller et continuer à porter sa bonne nouvelle. Cassandre, comment procède-t-on ? La suivante. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est Paul qui parle. Paul qui, lui, était un tueur de chrétiens. Avant de donner sa vie à Jésus, il tuait des chrétiens et il martyrisait des chrétiens. Et un jour, boum, il y a Dieu qui lui est arrivé dessus. Tac. Il a donné sa vie à Jésus. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse. Es-tu disponible ce matin ? Est-ce que tu considères ta vie comme précieuse ? Est-ce que tu crains ? Si tu crains, on peut prier pour toi ce matin. S'il y a des peurs, des doutes, des craintes, eh bien ce matin tu vas venir, on va prier pour toi, ça va partir. Ça a été le témoignage de Rita tout à l'heure. Parce que Dieu veut vraiment qu'on puisse avoir un cœur disponible pour lui, parce qu'il a besoin d'ouvriers dans la moisson. Et il suffit de simplement dire « Seigneur, présent, je suis là, je suis présent ». Et notre église, elle continue à marcher. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui vient me voir et me dit « Fred, j'ai vraiment dans mon cœur de pouvoir aller évangéliser dans la rue. » Mais je dis « Bah écoute, c'est pas dur. Va à Espace Café. » Ben ouais. Barbecue. Demain soir, il y a une réunion pour la Marche pour Jésus. La Marche pour Jésus, je vous encourage à venir. S'il vous plaît, venez à la Marche pour Jésus. Venez. Ne vous dites pas, ouais, mais on va être dans les rues de Lille, si je croise mon voisin, il va savoir que je suis chrétien. Non ! J'en ai croisé, moi, des gens que je connaissais dans la rue. Eh bien, c'est tout ! Gloire à Dieu ! Et on sait, franchement, on s'éclate à la Marche pour Jésus. C'est des moments, des bons moments. Bon, il y a l'année dernière, j'ai galéré avec mon camion et ça l'a arsené avec la sono. Mais on avait des bons moments ! On a quatre chars. Venez à la Marche pour Jésus, c'est le mai. Samedi 21 mai. Venez à la Marche pour Jésus. Vraiment, je vous encourage à y aller. Si vous ne prenez pas un bon moment, si vous ne prenez pas plaisir à y être, venez me voir après en disant bah, « Fred, je me suis ennuyé ». Et là, je vous dirai bah, « Je vais prier pour toi ». Vous ne pouvez pas vous ennuyer. Parce que tout simplement, il faut que l'on puisse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et là, le peuple dit « Allez. » Cassandre. Romains 10, 15, et ça va être ma conclusion. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comment annoncera-t-on la parole de Dieu si personne n'est envoyé ? Jésus a envoyé ses disciples. Il les a envoyés. Il n'a pas dit, bon, attendez, bon, là, d'accord, je vous forme, et vous avez les pétoches, bon, restez avec moi, c'est pas grave. Non, allez, il les a mis deux par deux, il dit, allez, peu importe, prenez pas de bourse, prenez pas de vêtements de rechange, tout vous sera donné parce que j'ai un Dieu, j'ai un Père, parce que Jésus disait, voilà, mon Père est bon. Et mon Père, il va pourvoir à tous vos besoins. Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et voyez un peu comment je retombe sur mes pieds, là, par rapport à la semaine dernière. Qu'ils sont beaux les pieds. Moi, j'ai trouvé la semaine dernière que les pieds, ils étaient beaux. Alors, il y en a qui trouvent ça laid, d'accord ? Il y en a, j'ai un neveu, moi, qui a la phobie des pieds. Il ne peut pas avoir de pieds. Oui, voilà, c'est comme ça. Il ne peut pas avoir de pieds. Bon. Mais je trouve que, moi, ils sont beaux les pieds de ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Et c'est ça. Romains 10, 15, retenez-le, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. de bonnes nouvelles. Je vais m'arrêter là, c'est ma conclusion. Je termine par ce verset de Romains. Parce que on se doit aujourd'hui, et Paul le disait, témoigner en tout temps. Dites merci à Dieu en tout temps. Merci Seigneur parce que tu vas me permettre aujourd'hui de parler à quelqu'un. Merci parce que voilà ceci. Merci parce que j'ai été béni là. Merci parce que Seigneur tu vas me permettre de redonner cette bénédiction. Un jour je prêcherai sur l'obésité et l'anorexie. Ça fait bizarre, hein ? Mais aujourd'hui on a des chrétiens obèses. Je ne parle pas physiquement. Je m'en fous, je suis bien placé pour en parler. Ouais, quand même, mais bon. Mais des obèses spirituels sont des gens qui prennent des leçons et des leçons et des leçons et des leçons, mais qui ne redonnent pas. Et puis les anorexiques, c'est ceux qui ne se forment pas, mais qui donnent. Et ils maigrissent. C'est le même principe que la nourriture. La nourriture spirituelle, si on mange de la nourriture spirituelle et on mange, mais qu'on ne redonne pas ou qu'on ne fait pas d'exercice, c'est-à-dire qu'on doit aller faire du sport, qu'ils sont bien beaux les pieds, c'est là on doit marcher, on doit courir, eh bien on ne redonne pas cette bénédiction. Par contre, si on ne fait que courir et qu'on ne se nourrit pas, regardez les marathoniens. Ils sont gros comme ça parce qu'ils ont une diététique qui est balèze. Encore le marathon de Paris la semaine dernière, 15 jours. Bah encore les 5 premiers, c'était des Rwandais. Fou. J'ai rien contre les Rwandais, hein, mais quand même, faudrait qu'ils laissent un peu gagner les Parisiens. Hein. Parce que les Parisiens, hein, ils ont besoin de gagner un peu. Hein. Bon, bref. Faut peut-être leur dire de courir, ouais. J'avais pris toutes les paroles, mais je vais pas les lire, parce que ce matin, on a lu des chants. Et j'ai pas fait mon prêche en fonction de la répétition qu'on a eue jeudi. Mais les paroles qu'on a chantées ce matin, Seigneur, tu es le centre. Seigneur, ma vie, elle est sur toi, elle est centrée sur toi. Tout ce qu'on a pu chanter ce matin est tellement vrai. Mais c'est vrai quand on l'a dans le cœur, parce que tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Si vous chantez ces paroles avec un cœur sincère, eh bien Dieu va les entendre. Et Dieu va les mettre en action. Dieu va les mettre en action. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prie. Si ce matin, vraiment, tu as des doutes, des craintes, et j'ai été comme ça, donc je peux en témoigner. Ça m'est, moi aussi, il y a des moments où je me suis dit, avant, parce que maintenant je parle facilement de ma foi. Je vois quelqu'un, j'en parle assez facilement parce que c'est tellement une façon de vivre pour moi. Et je ne dis pas ça pour me mettre au-dessus de vous, ce n'est pas le but, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais à partir du moment où on vit quelque chose de simple avec Jésus, où c'est vraiment quelque chose qui est là, où on sait que, ben voilà, moi mon Dieu, il vit avec moi, point. Et puis quand j'ai besoin de lui, ben il est là. Quand il a besoin de moi, je suis là. Et que ma vie, elle est calquée sur ce qu'il me dit. Sa parole est tellement bonne. Et donc, j'ai envie de prier pour ça. Si ce matin, tu as des craintes pour pouvoir apporter ce que tu as dans ton cœur. Si tu as un barrage, parce que des fois, on a des barrages. On est là, je vais lui parler. J'arrive pas. Comme moi avec la danse. Un jour, je vous assure, je vais danser. Je vais y arriver, ça. C'est un combat, mais je vais y arriver. Mais voilà. Il y en a, ils ont envie, ils ont « Oh Seigneur, je voudrais vraiment tellement lui parler. » Et puis, c'est là, ça ne veut pas sortir. Pourquoi ? Parce que tu es dans une forteresse. Et on va abattre tes forteresses ce matin. On va les abattre, tes forteresses. On va les abattre parce que j'ai le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc ce matin, si vraiment tu as envie de ça, je ne dis pas, et je ne veux pas non plus que tu viennes parce que tu as peur ou ceci, cela. Je veux pas que, si vous avez des personnes qui s'approchent ce matin, ne le regardez pas avec jugement. Mais au contraire, encouragez-le et dites-lui, bah, c'est bien parce qu'il a envie. Et normalement, même avec un appel comme celui que je fais là, tout le monde devrait être là devant. Et moi le premier, parce que j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Je ne suis pas là pour faire un appel à la candidature à l'évangélisation ou à l'espace café, bien que. Mais il faut absolument qu'on puisse avoir cette liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Et il faut avoir cette liberté de dire, eh bien moi je crois en Jésus-Christ, et si je peux te le donner Jésus-Christ, eh bien prends-le. Et puis il y a des personnes comme ça qui vont être bouleversées sur une seule parole, comme moi avec cette psychologue. Seigneur Jésus, je te loue, je te rends grâce, Parce que Seigneur, tout ce qu'on peut partager, Seigneur, ici, tout ce que l'on dit, Seigneur, ça vient de toi. Et moi, je crois ce matin que tu appelles des vies, des cœurs, Seigneur. Je sais qu'il y a ici des cœurs qui ont un cœur d'évangélisation. Il y en a. Et puis, il y en a d'autres qui ont plus de réticence. Et il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, je suis plus appelé à être à ceci, à cela. Je ne cite aucun domaine. Mais malgré tout, Jésus a dit avant de partir, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Seigneur Jésus, moi je veux vraiment pouvoir avoir cette phrase, cette parole, ce commandement, Seigneur, que tu as donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Non pas qu'on veuille faire de la quantité, mais on veut faire de la qualité. Parce que c'est tellement bon de vivre avec toi, Jésus. C'est tellement bon de t'avoir dans notre vie, Seigneur. C'est tellement bon à moi, Seigneur Jésus, de pouvoir venir devant toi et de pouvoir te prier, de pouvoir te remettre chacun des domaines de ma vie parce que je sais que tu pourvois, parce que je sais, Seigneur, que tu guides, parce que je sais que tu guéris, parce que, Seigneur, tu es là chaque jour dans ma vie. Seigneur, donne-nous cette joie, ce plaisir, Seigneur, d'aller partager ça avec ceux qui ont besoin d'entendre parler de toi, parce qu'ils sont tellement nombreux. Et Seigneur Jésus, moi, c'est vrai que j'ai tellement mal, Seigneur, quand j'entends qu'il y a des personnes qui meurent. Alors peut-être que ces personnes ont eu l'occasion d'entendre parler de toi, mais Seigneur Jésus, eh bien, donne-nous des occasions. Comme a eu Antoine, Seigneur, il y a quelques semaines de ça, avec Georgette. Seigneur Jésus, elle t'a donné sa vie, elle est décédée 3 jours après. Eh bien, moi, je proclame qu'aujourd'hui, elle est avec toi. Seigneur, il y en a beaucoup comme ça que je connais, qui ont la possibilité de parler avec toi et de pouvoir te donner leur vie. Eh bien, Seigneur Jésus, je te loue et je te rends grâce. Ce matin, permets-nous, Jésus, permets-nous, Seigneur, de pouvoir aller plus loin encore avec toi. Ce matin, si tu as envie qu'on prie pour toi, on est à plusieurs ici, on va prier pour vous. On va prier mutuellement, que chacun puisse avoir cette liberté. Parce que je sais qu'il y en a certains ici qui sont appelés à aller dans la rue, qui ont envie ça, mais qui ne savent pas le faire. Eh bien, nous, on peut les former, mais Jésus aussi peut les former, surtout Jésus. Mais aussi par nous, par notre intermédiaire. Donc si tu as envie de ça, eh bien, approche-toi ce matin, on va prier pour toi. Cora il chato faro doe landai chi deceto toro doe. Cora fara chanto toe. Seigneur Jésus, vraiment, je te loue, Seigneur, parce que tu parles au cœur maintenant. Je sais qu'il y a plus de personnes qui devraient se lever. Il y a plus de personnes. Parce que c'est un engagement, et un engagement comme celui-là, Dieu le voit. Et je ne peux pas savoir, moi, je ne veux pas douter que Dieu n'agit pas lorsqu'il y a quelqu'un qui s'avance à un appel. On ne fait pas des appels pour faire des appels. On n'est pas là à se dire, ouais, t'as vu ce matin, j'ai eu 10 personnes à mon appel, toi t'en as eu que 5 la semaine dernière. C'est pas le but. C'est vraiment de dire, Seigneur, vois qui s'approche de toi. Vois ceux qui ont ce cœur pour toi. Ceux qui ont envie d'aller plus loin avec toi, parce que on a envie d'aller plus loin pour toi. Seigneur Jésus, moi je veux vraiment que tu puisses toucher des cœurs ce matin. Que tu puisses toucher des cœurs ce matin, Jésus. Parce qu'on a besoin, Seigneur, de toi. Pour la même occasion, je voudrais aussi permettre à des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus de pouvoir le faire ce matin. Et pour ça, je vais demander à tout le monde de fermer ses yeux. Comme ça, tu pourras le faire bien entre toi et moi, entre Dieu et toi, entre nous trois. Et tu vas pouvoir lever ta main pour dire « Moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin parce que je sais que ma vie a besoin de lui. » Et tu vas faire en sorte de pouvoir lever ta main pour que je la voie, ta main, et que je puisse prier pour toi. Je sais que c'est dur. C'est difficile de lever sa main. C'est difficile de prendre un engagement pour Jésus, parce que forcément, on va réfléchir aux conséquences. Mais ne te soucie pas des conséquences, parce que les conséquences, c'est plus toi qui vas les gérer, c'est Jésus qui va les considérer pour toi. Donc ce matin, si tu as envie de donner ta vie à Jésus, ou si tu as envie vraiment de pouvoir aller plus loin avec Jésus, ou de dire, voilà Seigneur, moi je te connais pas bien, je voudrais te connaître mieux, lève ta main pour qu'il puisse vraiment se révéler à toi. Seigneur Jésus.